morning.
Good morning.
Good morning.
Yeah, good morning.
Whoa, good morning. And
good morning, Radio Premier.
Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle matinale. Bonjour Stéphane.
Bonjour Manon, bonjour à tous.
Nous allons commencer tout de suite la matinale.
C'est l'heure de la météo en Saône-et-Loire sur Radio Prévert 105.9. Et on commence donc avec la météo de ce mercredi après-midi. Météo France nous annonce un ciel chargé et orageux sur l'ensemble du département. Quelques éclaircies sont toutefois attendues. Côté température, on attend 19 à Marcigny et Chauffailles, 21 à Chalon et Toulon-sur-Arrou et 22 la maximale pour Mâcon. Jeudi, la pluie laisse place au retour d'un grand soleil en Saône-et-Loire. On atteindra les 24 degrés à Mâcon et Chalon. Vendredi, pas de répit, une nouvelle perturbation pluvieuse revient. Les températures, quant à elles, sont en hausse. Les deux jours suivants, vous pourrez profiter d'un week-end estival. Seuls quelques nuages devraient cacher les rayons du soleil samedi en matinée. Le mercure reste similaire avec des pics à 27 degrés dans le sud du côté du Mâconnais. C'était la météo sur Radio Prévert 105.9.
Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Prévert 105.9.
Et on commence ce flash en ouvrant une page éducation et scolarité. Fin du mystère, quelques 810 000 inscrits sur la plateforme Parcoursup pouvaient potentiellement se connecter hier soir pour connaître les réponses à leurs souhaits concernant leur poursuite d'études après le bac. Rapidement, et comme chaque année, le site n'a pas résisté face à l'affluence des internautes. Sur Twitter, de nombreuses publications traduisaient les frustrations des étudiants quant aux résultats, mais aussi devant le site bloqué quelques minutes. Dans l'actualité également, le décès de l'écrivain américain Philip Roth à l'âge de 85 ans, un des géants de la littérature américaine. Il est notamment l'auteur de La Tâche, Le complot contre l'Amérique ou Pastorale américaine, qui lui vaudra le prix Pulitzer en 1998. C'est le livre Portnoy et son complexe qu'il avait révélé au grand public en 69. En 2012 toutefois, l'écrivain avait annoncé sa décision de raccrocher sa plume. Et enfin, on termine avec l'affaire Cambridge Analytica, qui fait parler depuis des mois maintenant. C'était une erreur et j'en suis désolé, ce sont les mots de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui a présenté hier ses excuses devant le Parlement européen à Bruxelles. Les échanges étaient tendus et le créateur du réseau social repoussé dans ses retranchements. Il était entendu pour les lacunes de son réseau social dans la protection des données de ses utilisateurs. Dans la journée, il rencontrera le président de la République, Emmanuel Macron, pour revenir sur ce sujet. Voilà, fin de ce flash. Manon, désormais, on ouvre une page 7e art avec toi. Tu reviens sur le long-métrage The Forest, un récit entre drame et disparition inquiétante. C'est à toi.
C'était toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Prévert 105.9. Ciné News, la chronique du 7e art sur Radio Prévert 105.9. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un film d'horreur. Un peu d'innovation, s'il vous plaît. Ce long métrage s'appelant The Forest nous plonge dans un lieu mythique et connu appelé La Forêt des Suicides. Retenez bien ce nom, vous allez souvent l'entendre dans la matinale. Pendant 90 minutes, le réalisateur Jason Zada nous emporte dans un lieu mêlant légende et effroi. Commençons par un petit synopsis du film. Au cœur des États-Unis, une jeune femme s'inquiète de la disparition inexpliquée de sa sœur jumelle. Petit à petit, celle-ci va débuter une enquête afin de la retrouver. Ses pas finissent par la conduire au Japon, puis au fur et à mesure à Okigara, une forêt située au pied du mont Fuji et où les personnes partent se suicider. Têtue et fonceuse, elle finit par aller elle-même dans la forêt pour retrouver sa sœur, malgré les conseils des gens environnants lui disant de ne pas s'y aventurer.
Ma sœur Jess et moi, on est des jumelles identiques. Si l'une des deux ne va pas bien, l'autre le sait tout de suite. C'est difficile à expliquer, mais j'arrive à le sentir. Elle a des ennuis et elle a besoin de moi.
Votre sœur est partie dans la forêt d'Aokigahara. C'est l'endroit où vont les âmes en peine pour se suicider.
Quoi ? J'arrive, Jess. Je cherche ma sœur. Elle est allée dans la forêt. J'aimerais engager un guide.
Pas de guide. La forêt est très dangereuse. Là-bas, les esprits ne trouvent pas le repos. Alors, ils reviennent. En colère.
Je peux pas vous laisser y aller toute seule. J'ai un arrangement avec le garde forestier. Je peux demander que vous nous accompagniez.
La forêt est très dangereuse. Ne vous éloignez pas du sentier.
Oh mon Dieu, c'est sa tante.
Jess!
On doit quitter avant la nuit.
Je partirai pas sans ma sœur.
Jess!
La nuit, on voit des choses effrayantes.
Tu deviens paranoïaque.
Continuons avec quelques anecdotes. Il s'agit du premier long-métrage du metteur en scène, Jason Zada, qui a préalablement réalisé 3 courts-métrages, dont le dernier en date, Tech vs Lollipop, est aussi un film d'horreur. A noter la présence dans le rôle principal de Natalie Dormer, alias Marguerite Tyrell, dans la série Game of Thrones, dans la peau de l'héroïne du film. Depuis sa révélation aux yeux du grand public via cette série culte, les rôles de l'actrice tendent à prendre plus d'importance au cinéma, comme en témoigne The Forest. Je pourrais également vous donner des anecdotes sur la forêt. Cependant, celle-ci va être mise en avant plus loin dans la matinale, donc gardons un peu de mystère.
Thank you.
d'écouter la soundtrack du film The Forest. Terminons cette chronique cinéma, plutôt rapide aujourd'hui, je vous l'accorde, par mon avis sur ce film. Pour commencer, je trouve l'ambiance de ce film très bonne. On ressent la détresse du personnage principal. Cette impression est sans aucun doute renforcée par les jeux de lumière du film qui donnent à l'atmosphère de ce film un petit côté stressant, tant aimé par les amateurs de films d'horreur. Ensuite, je dirais que le jeu de l'actrice est d'un certain côté bon, et d'un autre moyen, pour tout dire, je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage qu'elle incarne, ce qui me laisse donc assez dubitative. Il est par contre très facile de s'attacher, aux autres personnages de ce métrage. Je ne vous spoil pas, ne vous inquiétez pas. Après, il est aussi vrai que je n'ai pas trouvé ce film si effrayant que ça, ce qui est clairement dommage vu l'environnement qui avait été choisi pour le film. Je rappelle donc la forêt des suicides. Ce qui me déçoit légèrement quand même. Les démons dont on nous parle dans le film sont loin d'épouvanter, et certaines actions sont totalement prévisibles. Je peux donc clairement dire que je suis restée sur ma faim. L'histoire était pourtant originale, les musiques sont bonnes, vous avez pu entendre la soundtrack, je le rappelle, les lumières sont bonnes, et l'ambiance est plutôt pas mal, ce qui manque est donc ce petit côté terrifiant que l'on attend. Ce n'est pas parce que vous stressez que vous avez peur, tout simplement. Et juste ressentir la détresse du personnage ne peut pas remplacer tout ça. Ce qui est un peu triste vu que l'on parle d'un film d'épouvante horreur, à ne pas confondre avec le gore horreur. Pour expliquer plus brièvement, l'épouvante horreur va chercher à vous faire peur, donc comme dans The Forest, une forêt sombre avec des démons, et le gore horreur, c'est plutôt massacre à la tronçonneuse, donc beaucoup de boyaux, beaucoup de sang. Voilà. Nous allons maintenant enchaîner avec un petit peu de musique. Parce que oui, bon, c'est joli la forêt des suicides, mais c'est pas le sujet le plus joyeux quand même. Nous continuons donc avec Greenwashing de Trio, Roar de Katy Perry et Aux arbres citoyens de Yannick Noah. C'était Ciné News sur Radio Prévert 105.9.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers 105.9.
On veut du green, on veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du green.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 greenwashing.
On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon. On veut du green, 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 greenwashing.
C'est nous les as, les Tokyo du marketing.
On veut du green, 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 greenwashing.
On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green, 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 greenwashing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 greenwashing.
Sans phosphate, des shampoings tout organiques, des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques,
des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert,
mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, 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 greenwashing. On veut du green, 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 greenwashing.
On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut du green, green.
On veut la mer, on veut l'été, on veut bronzer.
On veut du greenwashing.
On veut des baleines et du thon.
On veut du greenwashing.
green, green, green washing.
Notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. S'acheter de l'air en bar, remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteur éphémère, maintenant c'est plus trop.
Puisqu'il faut changer les choses,
oh ça, citoyen,
il est grand temps qu'on propose
un monde pour demain.
Aux arbres citoyens, quelques baffes à prendre. La veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne je nous fais passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses,
oh, ça, citoyen,
il est grand temps qu'on propose
un monde pour demain.
Plus le temps de savoir à qui la faute, ouyoyo, de compter sur la chance ou les autres. Maintenant on se bat. Avec toi moi j'y crois. Puisqu'il faut changer les choses,
bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
De retour sur Radio Prévert après ces 10 minutes de musique. Et ce matin, Stéphane, tu vas nous faire découvrir une activité originale qui émerge depuis plusieurs mois sur Internet.
Et oui, Manon, qui n'a jamais voulu découvrir, explorer des lieux abandonnés, des anciennes gares aux usines désaffectées en passant par les hôpitaux laissés tels quels, où le temps s'est arrêté? Cette activité, c'est l'Urbex. L'Entre des Geeks, la revue high-tech et multimédia sur Radio Prévert 105.9. Alors si vous regardez souvent des vidéos sur Internet, vous connaissez forcément cette pratique qui fait fureur aujourd'hui en ligne, l'Urbex, contraction de Urban Exploration, désigne l'activité consistant à visiter des lieux généralement repris par Dame Nature et interdits d'accès. La première fois que l'on voit apparaître ce nouveau mot, c'est dans les années 90, à l'heure où les médias proposaient des reportages sur ces infrastructures laissées à l'abandon par l'homme. Blogueur en ligne, photographe ou explorateur, la pratique est prisée par un public averti ou amateur. L'urbex peut être considéré comme proche de l'art, car c'est regarder un endroit qui peut paraître tout à fait commun avec un nouveau regard, en visitant des sites où l'homme a laissé en friche une société, un monument historique ou d'anciennes habitations. Historiquement, l'exploration urbaine est une activité pratiquée par l'homme depuis des siècles. Les excursions dans les catacombes et d'autres charniers sont autant d'exemples. La pratique de l'urbex héberge dans les années 80. En France, la région parisienne est propice à cette activité en raison de ses nombreuses lignes de chemin de fer, de métro ou encore des chantiers et autres hôpitaux abandonnés. Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage de nos confrères de France 3 Bourgogne au sujet de l'urbex.
Un ancien hôtel désaffecté au cœur de Nevers. Une fois la porte franchie, un terrain de jeu pour Benoît et Thomas. Deux amis qui pratiquent l'urbex pour exploration urbaine de lieux abandonnés. Les visites ne se font pas à l'improviste, mais après un travail de préparation.
La plupart du temps, quand on se promène hors urbex, on voit un lieu qui a l'air abandonné. On repère, on rentre pas directement dedans, et puis voilà, après on essaye de, s'il y a une entrée, de rentrer dedans.
Loin du vandalisme, les deux jeunes hommes défendent une pratique respectueuse du site et encadrée par une sorte de code de bonne conduite.
La règle de base, on ne casse rien. Deuxièmement, ne jamais forcer une entrée. Troisièmement, ne jamais voler dans un lieu abandonné.
Un sentiment d'aventure, caméra au point, pour saisir l'esprit et l'histoire d'un lieu. Des balades diffusées ensuite sur Internet.
Nickel. Ça fera une bonne petite vidéo.
Nous, ça nous fait sortir entre potes. Après, je suis... j'aime bien filmer, donc c'est mon deuxième plaisir. Je filme et puis je partage ça.
De jour ou de nuit, les deux amis ont déjà réalisé une quinzaine de vidéos en un peu plus d'un an. Centre commercial, usine, château, une manière de partager leur passion avec d'autres curieux peut-être moins téméraires. Car les lieux sont parfois dangereux et il convient d'être conscient des risques d'une pratique aux limites de la légalité.
Tu nous parles donc d'urbex, Stéphane, mais j'ai l'impression que ça englobe, pas mal d'activités, non ? Quelles sont-elles ?
Oui, Manon. Alors, l'urbex, c'est un terme si vaste qu'il peut inclure beaucoup de choses. Et justement, il en existe plusieurs types et tout autant d'endroits à explorer. Les motivations de chaque explorateur sont diverses. Certains seront portés sur l'aspect historique, pour d'autres, ce sera la ville moderne et ses coulisses. La photographie et la vidéo sont une motivation importante. On ne compte plus le nombre de vidéastes sur YouTube publiant leur aventure. D'abord, on peut parler des toitures au fil. Très simple, vous l'aurez compris, ce sont les explorateurs qui visitent les toits des immeubles ou encore des églises. La toiture au fil monte généralement sur les toits et les plus hauts sommets des villes notamment, afin de surplomber l'endroit qui l'entoure. La visite de ces lieux devient alors un moment privilégié d'observation du panorama qui reste toutefois très dangereux. Ensuite, on parle aussi de la cataphilie. Elle désigne les individus qui pénètrent dans les galeries d'anciennes carrières souterraines de Paris. Les motivations des cataphiles sont très diverses. L'intérêt historique, la solitude ou encore le goût de l'interdit. L'absence de lumière du jour dans ces couloirs permet d'oublier la notion de temps. On poursuit avec l'exploration rurale. Cette activité dérivée de l'exploration urbaine consiste à s'introduire et à visiter des lieux abandonnés tout en profitant de la tranquillité du milieu rural. La connaissance du patrimoine, de l'industrie ou encore de l'artisanat est souvent une des motivations de l'activité. Autre type d'urbex, les explorations des friches industrielles. La visite de ces sites industriels désaffectés est interdite car il s'agit de lieux privés et aussi en raison des dangers qui s'y trouvent. Elle représente une grande partie de l'activité. Les ouvrages militaires comme les casernes ou les ouvrages ferroviaires comme les lignes de métro sont tout autant visités. On continue avec l'infiltration. Cette pratique consiste à pénétrer sans autorisation dans des lieux toujours en activité hors horaire d'ouverture. Les musées sont souvent les lieux privilégiés. Enfin, l'explorateur peut partir découvrir les réseaux d'eau souterrains. On parle ici des canalisations souterraines, des ponts et aqueducs, voire même les réseaux d'égouts. Cette pratique peut néanmoins s'avérer dangereuse en cas de pluie et a déjà conduit à des accidents mortels. Je vous propose d'écouter le sujet du JT de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes qui revient sur la dangerosité d'une telle pratique à la suite du décès d'un jeune homme il y a quelques mois.
Regarder sa ville depuis des endroits interdits, c'était la passion de Maxime. En décembre, il poste cette vidéo de son escalade de la tour métallique de Fourvière. Chercher l'image forte à tout prix, une quête qui lui a coûté la vie jeudi dernier. Maxime a été heurté par un train alors qu'il se trouvait sur les voies du pont de la Mulatière. Il avait 18 ans, c'était un urbexeur, un explorateur urbain, comme Alec, Loïs, Richard et Jonas, ses amis.
Il a été le premier à monter par exemple en haut de la tour métallique à Fourvière, il a été le premier dans plein de domaines et c'est ça.
Pour faire ses photos, il prenait beaucoup de risques ?
Le risque est toujours présent, c'est sûr, mais nous qui avons rencontré Maxime pas mal de fois, il a toujours été prudent.
On pratique à peu près une fois par semaine, donc justement l'urbex, et on visite des lieux abandonnés, que ce soit souterrains, friches, etc.
Vos parents le savent ?
Nos parents le savaient, ils sont au courant, ils sont aussi au courant du lieu où on va.
Voici Robin, il nous emmène sur son spot préféré.
Le fort de Loyas, construit entre 1836 et 1840, il a servi que 18 ans. Pour une raison très simple, l'invention du canon rayé.
Robin, étudiant de 20 ans, est incollable sur le vieux fort abandonné. Il en connaît tous les recoins et les passages secrets.
Cette partie n'est peut-être pas la plus jolie, ou celle qui est en meilleur état, mais je pense que la suite vous plaira.
Lyon regorge de galeries et de souterrains. On en découvre de nouveaux chaque année. Un terrain de jeu inépuisable pour Robin.
Et, en général, on s'intéresse surtout à l'histoire. Certaines personnes s'intéressent peut-être à l'interdit ou peut-être à l'adrénaline, mais on est assez peu dans ce cas.
On ne sait pas exactement combien de personnes pratiquent l'urbex, par définition illégale. Il y a certainement plusieurs centaines d'adeptes réguliers. Mathieu Carlier fait partie des anciens Il a créé un site web sur les souterrains lyonnais et il s'inquiète de la pratique des plus jeunes.
Moi, je suis sur l'exploration urbaine. Maxime, lui, était plus sur ce qu'on appelle le parcours, c'est-à-dire une performance sportive, escalader les plus hauts buildings de la ville pour ramener la prise de vue la plus exceptionnelle et faire un maximum de clics sur les réseaux sociaux.
Pour les urbexeurs, l'accident de Maxime a été une prise de conscience brutale du danger. Ce week-end, ils lui rendront un hommage discret.
En France, l'explorateur qui pénètre dans des lieux privés s'expose à plusieurs risques. D'abord, à un risque légal. L'urbex n'est interdite en France que par quelques décrets, arrêtés préfectoraux ou règlements internes de certaines administrations. Ensuite, vient les incidents sur personne. L'urbex est une pratique dangereuse pour les non-expérimentés. Les risques physiques liés à cette activité sont de plusieurs natures. Chute due aux effondrements, des risques liés à l'eau avec l'inondation subite d'un conduit, des risques liés au gaz ou plus rarement des risques d'explosion. Régulièrement, des youtubeurs se blessent ou décèdent accidentellement. Le danger est bien réel et il est préférable de ne pas prendre de risques pour quelques vidéos ou clichés.
Stéphane, est-ce que tu aurais quelques noms de youtubeurs qui pratiquent l'urbex à nous conseiller d'aller regarder ?
Oui, Manon, en voici deux. Plusieurs personnalités stars de la plateforme de partage de vidéos YouTube se partagent la part du gâteau et de l'urbex. Le grand JD d'abord. Originaire de Suisse, de son vrai nom Julien Donzé, le youtubeur est suivi par près de 2 millions de personnes sur Internet. Depuis 2014, le vidéaste fait part de sa passion de l'urbex, mais aussi de l'univers paranormal. Il a notamment visité la zone rouge et interdite d'accès de Fukushima dévastée en 2010 en raison de la radioactivité, ou encore la forêt des suicides au Japon où il y passera quelques heures en pleine nuit. Autre youtubeur que je vous conseille, c'est MamiTwink. Il partage avec les internautes sa passion pour l'histoire et son goût pour l'aventure en visitant des lieux historiques abandonnés ou non. Au programme de ses visites, la construction du château de Guédelon dans l'Yonne il y a quelques semaines ou bien l'exploration de grottes souterraines dans les méandres de la Terre. Voilà, fin de cette chronique geek où le réel se mêle au virtuel grâce aux nouvelles technologies. La pratique de l'urbex est un bon moyen de découvrir et de voir sous un autre angle des lieux abandonnés. Mais attention, la pratique reste dangereuse et frise la légalité. L'envie d'avoir les plus beaux clichés peut être mortelle. Ne vous aventurez donc pas n'importe où et n'importe quoi. Et toi Manon, est-ce que tu as déjà fait de l'urbex ?
Oui, j'en ai déjà fait une fois.
Et qu'est-ce que tu as visité notamment ?
C'était une usine, tout simplement. Après, nous ne sommes pas restés dedans longtemps. J'étais avec des amis et disons qu'il y avait quelques froussards. Donc
Justement, qu'est-ce que tu as mis en faisant un petit peu l'urbex, le temps de quelques heures ?
Eh bien, l'urbex, c'est une pratique qui, on va dire, pousse ton adrénaline, quoi. Tu sens le danger, tu dis « Ah, je vais y aller ». Tu essaies, tu tentes et disons qu'au moindre petit bruit, surtout si c'est en pleine nuit, ça te fait peur, quoi. C'est l'appât du danger, l'appât de vouloir faire des choses que d'habitude tu ne fais pas.
Et ton exploration, c'était en pleine nuit ?
C'était hiver et c'était de nuit. Ça devait être vers 22h, je pense.
Très bien. Ben, merci Manon. On va poursuivre avec toi. Et on reste toujours dans la nature et tu vas revenir sur une forêt donc très connue dans le monde. C'est donc la forêt des suicides au Japon. C'était l'Entre des Geeks sur Radio Prévert 105.9.
Nom de Zeus, votre rubrique histoire, mythes et légendes. Plus tôt dans la matinale, nous avons évoqué la forêt des suicides, plus précisément dans les chroniques cinéma et geek. Il serait donc judicieux de revenir dessus et d'approfondir le sujet de cette forêt au doux nom de Aoki Gahara.
Alors Manon, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette forêt, où elle se situe et quelles en sont les particularités ?
Aoki Gahara est une forêt de 35 km² qui s'étend à la base du mont Fuji au Japon. Connue sous le nom de Jutkai, littéralement mer d'arbres, c'est une forêt à l'histoire encore relativement jeune. Enfin, quand je dis jeune, j'entends 1200 ans quand même. Située au nord-ouest du mont Fuji, la majeure partie de la forêt couvre l'emplacement d'une large coulée de lave qui a enseveli la région lors de l'éruption de 864 qui dura 10 jours. Le sol de la forêt, en roche volcanique, est principalement couverte de mousse. Les bulles de gaz présentes dans la coulée de lave initiale s'étant effondrées, le terrain est assez accidenté. Néanmoins, il est assez aisé de s'y promener. Les buissons et ronces, gênant souvent la progression dans les forêts européennes, y étant rares. Des sentiers de promenade balisés existent sur la rive sud du lac Sai. Continuons avec un fait sur cette forêt qui vous rappellera sans doute le triangle des Bermudes, dont j'ai parlé dans la matinale de la semaine dernière. Aokigahara est une destination à part. Quand j'y ai mis les pieds, j'ai d'emblée senti que la forêt était spéciale, hantée. S'en souvient Peter Ten Hoopen, qui a réalisé un reportage pour l'agence VU en 2012. Pour ne pas s'y perdre, le photographe néerlandais a dû avoir recours au conseil d'Azusa Ayano, un géologue qui connaît la forêt comme sa poche et qui a sauvé d'ailleurs quelques candidats au dernier saut. C'était primordial, car les GPS ne fonctionnent pas à l'intérieur, les téléphones non plus. Parmi les corps retrouvés dans la forêt, plusieurs sont ceux de randonneurs égarés. Les métaux ferreux contenus dans la roche volcanique rendent encore aujourd'hui toute boussole caduque, d'autant que le caractère répétitif du paysage et l'impossibilité d'apercevoir le soleil depuis certains endroits perturbent le sens de l'orientation. La lave renfermait par ailleurs des bulles de gaz qui se sont échappées lors de la phase de solidification en créant des formes étranges, figées lors du refroidissement, et de nombreuses cavités qui se révèlent dangereuses. Prévient Rémi Shoshimaro. J'espère que j'y ai bien dit. Donc en résumé, la forêt d'Aokigahara est tellement dense, large et pleine de métaux ferreux que si vous vous y aventurez pour une petite randonnée, vous risquez de ne jamais en sortir.
Eh bien Manon, et si tu nous parlais un peu plus de son histoire? Car oui, jusqu'à maintenant on a vu où elle se trouvait, que s'y perdre était très facile, mais son histoire, qu'est-ce qui a créé sa renommée, hors le fait que ça soit un triangle des Bermudes dans le milieu forestier?
Aokigahara a été un lieu privilégié pour déposer les personnes âgées en fin de vie, mais aussi des nouveau-nés, dans le cadre d'infanticides pratiqués à la fin du 19e siècle dans les campagnes comme moyen de régulation de la population en vue de la modernisation du pays, explique Rémi Shoshimaro, docteur en géographie, aménagement et urbanisme et maître de conférences en langue universelle civilisation japonaise à Toulouse 2. Cette présence de la mort, on a ainsi fait, depuis l'après-guerre, un site à la fois idéal pour les suicides et très pratique pour se débarrasser des corps à la suite d'un meurtre. On peut donc dire que l'histoire de cette forêt est macabre, et ça continue dans la littérature japonaise. En 1959, quand Seicho Matsumoto, auteur de littérature policière, publie sa nouvelle Naminoto, l'histoire raconte la romance interdite entre une jeune femme et un procureur qui, menacé par un maître chanteur, se jette en offrande dans la mâchoire carnassière de la forêt d'Aokigahara. Suite à cette nouvelle, de nombreuses personnes se sont suicidées dans cette forêt. L'auteur ne devait pas se sentir bien en apprenant tout ça. 34 ans plus tard, un autre livre vient asseoir sa réputation, le polémique Kansen Jisatsu Manyoru de Wataru Tsurumi. Écoulé à 1,1 million d'unités au Japon, l'essai de 198 pages constitue un mode d'emploi du suicide et cite Aokigahara comme l'un des meilleurs spots pour mettre fin à ses jours. La forêt accueille de plus en plus de suicidés, il n'est pas rare que les autorités retrouvent un exemplaire du Kansen Jisatsu Manyoru à côté des cadavres. Vous rendez-vous compte, un manuel pour savoir se suicider. Eh oui, c'est bel et bien la littérature qui en a inspiré, en grande partie, cette histoire de forêt du suicide. Dans la région du Japon où la forêt se trouve, la plupart des suicides se déroulent là-bas. On parle d'environ 370 morts en 2005. Cette forêt est considérée comme l'un des sites où l'on se suicide le plus au monde, avec le Golden Gate Bridge à San Francisco. Des personnes du monde entier y vont pour se suicider. À cause de tout cela, des rondes dans la forêt ont été mises en place et de nombreux gardes forestiers la sillonnent dans l'espoir d'arrêter un acte suicidaire.
Et justement, est-ce que l'État a fait quelque chose pour essayer d'enrayer cette série noire de suicides?
Eh bien oui, l'État a décidé d'agir en disposant à plusieurs endroits de la forêt des pancartes avec ce genre d'inscription. La vie est un cadeau précieux, offert par vos parents. S'il vous plaît, pensez à eux, à votre entourage, à vos amis. Ne gardez pas les choses en vous. Parlez-en. Les autorités espèrent ainsi juguler la centaine de décès annuels enregistrés. Une majorité d'hommes âgés de 45 à 65 ans, parfois des personnes venues de pays lointains. Mais aussi éviter d'avoir à faire le ménage, car chaque pendu abandonne tout un tas d'objets. Torches, rubans, tentes, cordes, emballages de médicaments dangereux. Si cela fait un peu désordre en forêt, le suicide ne souffre d'aucun tabou religieux au Japon. Depuis Minamoto no Yorimasa, premier samouraï à avoir recours au seppuku, auto-éventration, pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est même plutôt considéré comme un geste capable de rétablir un honneur perdu. Une pratique inspirée de valeurs morales féodales qu'on retrouve aussi chez les femmes sous le nom de jigai. Et même beaucoup plus tard, durant la Seconde Guerre mondiale, chez les kamikazes. Cette chronique n'était pas bien joyeuse. Mais bon, la culture n'attend pas. Vous pouvez encore retrouver d'autres informations autour de cette forêt, comme le fil d'Ariane par exemple, utilisé par ceux voulant se suicider pour retrouver leur chemin en cas de changement d'avis, ou encore les histoires de Yokai Urei, démons et âmes meurtries restées sur Terre, qui résident dans la forêt, mais cela prendrait beaucoup de temps. Après, si vous vous demandez pourquoi il y a autant de suicides au Japon, eh bien je vous conseille de vous renseigner sur le fait que là-bas, les Japonais ont une vie extrêmement stressante. Tellement stressante avec tellement de pression qu'ils en viennent à se suicider. Est-ce que vous imaginez ? Nous allons repartir pour 10 minutes de musique avec New York avec toi de téléphone, Sophia de Alvaro Solar et Folie Arcadienne d'Arcadian. Et nous enchaînerons ensuite sur de la littérature qui sera ma foi bien joyeuse et qui ramènera donc un peu de joie du coup dans cette matinale. C'était Nom de Zeus sur Radio Prévert 105.9.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers 105.9.
So que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers. 105.9. Quoi de neuf au CDI? La chronique littéraire sur Radio Prévert 105.9.
On se retrouve pour la chronique littérature en compagnie de Ilana.
Bonjour.
Bonjour Ilana. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un manga. Et oui, comme la semaine dernière, celui-ci s'appelle Lily la Menteuse. Alors Ilana, qui est l'auteur de ce manga?
Alors l'auteur du manga Lily la Menteuse est Ayumi Komura. Et c'est un shoujo, donc un manga qui vise surtout un public féminin. Et qui en fait raconte les trois quarts du temps une histoire d'amour plus ou moins bizarre.
Combien y a-t-il de tomes dans ce manga?
Alors en tout, normalement, il y en a 17 pour l'histoire principale. Mais il y a aussi un tome 0 qui est là pour ajouter des petites histoires bonus sur les personnages et approfondir le background, on va dire, du personnage.
Tu pourrais nous donner un petit résumé de celui-ci?
Alors en fait, ce manga parle donc d'une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Hinata Saotome. Et qui, à l'âge de 15 ans, n'est jamais sortie avec un garçon, qui, pour certains, est normal, qui, pour d'autres, c'est oulala. Et donc, elle sort enfin avec son premier copain, à l'âge de 15 ans, qui s'appelle N. Shinohara, qui est un garçon qui est très beau physiquement, tout ce qu'elle aime, donc tout ce qui est rêvé par les jeunes filles, n'est-ce pas? Et en fait, ce jeune garçon a une particularité et un fétichisme, si je puis dire, plutôt spécial, c'est qu'il a tendance à se travestir en fille, en fait. Et le truc, c'est que quand il se travestit, c'est que le résultat marche très très bien et qu'il est même encore plus beau qu'une vraie fille, en fait. Ce qui est un peu triste, du coup, et qui fait qu'il est plus ou moins détesté par certaines filles ou idolâtré par certaines, mais qui plaît beaucoup aux garçons, forcément. Garçon que N déteste au plus haut point. Il ne supporte pas les garçons et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle il se travestit les trois quarts du temps.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ce manga?
Le côté complètement barge en fait du manga de base. Sortir un manga dont la protagoniste sort avec un garçon qui se travestit et qui en plus de ça devient une fille super jolie d'ailleurs. C'est complètement... Enfin l'humour du manga en soi est vraiment la chose que j'ai le plus appréciée. J'adore les shoujo, c'est toujours quelque chose de très niais, les trois quarts du temps. De par leur sujet, c'est souvent une histoire d'amour entre une protagoniste et un beau mec ténébreux qui regarde au lointain, tout ça. Donc forcément, avoir un petit peu d'originalité, des fois, ça fait pas de mal. Et Lily la Menteuse me donne cette originalité que je recherche dans un shoujo.
Y a-t-il des choses que tu as beaucoup moins aimées, du coup?
Dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé ce manga, mais il y a peut-être le personnage d'Hinata que de temps en temps je trouve, chiante, très clairement. Disons que, bon, je pense que quand on est en couple, surtout à un âge... disons que ça fait que c'est un bon personnage de, j'ai envie de dire, de gamine de 15 ans, quoi. Dans la mesure où, voilà, avec son premier copain, forcément, elle l'agrippe. Mais... qu'elle l'agrippe, elle est jalouse des autres filles, enfin tout ça, c'est tout ce que vous voulez, mais je trouve qu'elle, vers la fin, le milieu-fin du manga, elle a tendance à faire beaucoup trop de, comment dirais-je, de drama pour pas grand-chose au final. Mais sinon, c'est un personnage qui est quand même attachant et assez drôle, et en plus, on voit quand même son évolution dans le manga. Au début, elle est complètement refroidie de découvrir que N adore se travestir en fille, et elle veut même le quitter, genre, le lendemain après qu'ils aient commencé à sortir ensemble. Puis au final, elle évolue, puis elle accepte petit à petit de voir son petit ami se travestir, et lui-même fait des efforts en cessant de se travestir par moments pour lui faire plaisir, elle aussi, quoi.
Ça a l'air d'être un très bon manga, donc tu as l'air de beaucoup l'apprécier.
Ah ça fait longtemps que je l'ai et que je le lis, et donc ouais, je l'aime bien, quoi.
Oui, ça fait plusieurs années que tu le suis.
Depuis peut-être le début du lycée, au moins.
Tu comptes terminer, du coup?
Il me manque qu'un tome, ce serait dommage de ça.
De commencer, de finir ce qu'on a commencé plutôt.
Oui, plutôt.
Je ne sais pas parler.
Exact.
Eh bien, est-ce que tu le conseilles pour finir?
Bien sûr que oui, parce que c'est quand même un très bon manga et bon, il est quand même super drôle, mine de rien. L'humour de l'auteur est quand même bon, je trouve. Enfin, après, c'est un humour hyper absurde, hein. C'est-à-dire que t'es vraiment. T'as des scènes, des fois, tu te dis, mais quoi, pourquoi est-ce qu'il se passe ça, d'où ça sort, enfin. Puis les personnages sont hyper attachants aussi. Et il y a bien sûr d'autres couples, il n'y a pas que le couple de N et Hinata, il y a d'autres couples qui se formeront ou qui se font déjà former dans le manga et qu'on peut plus ou moins découvrir dans le tome 0 d'ailleurs, pour savoir aussi comment ces couples se sont formés et pourquoi et quelles sont leurs affinités. Et c'est toujours très très drôle, quoi. C'est un univers plutôt drôle. Et les dessins sont plutôt beaux d'ailleurs aussi. Enfin, moi perso, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc oui, moi je le conseille vivement.
Eh bien, merci pour ton avis, Anna.
Mais de rien.
Je tiens à préciser que j'ai moi-même lu ce manga et que je l'ai moi aussi beaucoup apprécié. C'est pas un manga sur lequel on... C'est un manga très original.
Puis c'est pas lourd, on va dire, entre guillemets, dans le sens où, bah, déjà l'humour n'est pas lourd. Puis honnêtement, c'est le genre de manga qui est toujours très bon à lire de temps en temps quand on veut se détendre et rire un petit coup, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est très déjanté, ça change des mangas sur lesquels on tombe en général. Je fais référence à Naruto, Bleach.
Bah après, c'est des shonen, ça, donc c'est normal que ça soit différent.
Dans les shoujo, après, on a quoi d'autre? On a...
Oh, dans les shoujo, un peu dans le même genre barge, je peux citer Switch Girl aussi.
Oui, Switch Girl, il est pas mal aussi.
Peut-être que je reviendrai pour une autre chronique pour en parler.
Tellement de chroniques futures. Mais c'est vrai, c'est un manga que nous vous conseillons vivement à te donner, que si vous êtes pas très bien et que vous avez besoin de sourire ou de rire.
Ou si juste vous aimez bien les histoires un peu cons, très clairement.
Voilà, on vous conseille vivement. Ça changera des shoujo sur lesquels on tombe habituellement.
Voilà. C'est vrai que c'est quand même appréciable de voir ce genre d'histoire de temps en temps.
C'est vrai. Bon, et bien, il semblerait que cette chronique littérature soit terminée. Peut-être nous retrouverons-nous donc pour une prochaine chronique littérature ensemble.
Peut-être.
Peut-être, nous verrons bien. J'espère que vous avez apprécié de nous écouter.
C'était Quoi de neuf au CDI sur Radio Prévert 105.9.
Et on poursuit sur Radio Prévert avec toi Stéphane avec l'interview du jour. Nous recevons ce matin Antoine Delberg qui va nous parler de la gestion forestière avec le Fogefort.
Le saviez-vous ? C'est maintenant sur votre fréquence.
On se retrouve pour parler formation et gestion forestière sur les ondes de Radio Prévert. Et on reçoit aujourd'hui Antoine Delberg. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes donc ingénieur au sein de l'antenne de Lyon du CRPF, donc c'est le Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne. Et on va commencer en rentrant tout de suite dans le vif du sujet, en ouvrant la première partie de cet entretien. On va revenir donc avec vous sur le stage de formation Fogefort, la formation à la gestion forestière. Alors en quoi ça consiste concrètement le Fogefort de manière globale ?
Alors le Fogefort, c'est une association qui a pour but de former les futurs gestionnaires de forêt, donc que vous soyez ayant droit en forêt ou à leur propriété. Forestier. Cette association vous permet d'acquérir les bases de la gestion forestière et d'être à même de pouvoir dialoguer avec tout membre de la filière forêt. Elle se passe souvent en plusieurs jours de formation et plusieurs cycles de formation différentes, comme avec par exemple cette année un cycle de formation qu'on appelle cycle d'initiation, qui est constitué sur 4 jours, qui aura lieu en Bourgogne au mois d'août, ou alors d'autres années il y aura des cycles appelés cycles de base, qui sont des cycles qui se déroulent sur une journée par mois, tous les mois, sur la répartie sur l'année. Et on trouvera également des cycles de perfectionnement, une fois que l'un de ces deux cycles précédents a été fait, pour vous amener à compléter toutes vos connaissances en gestion forestière. Voilà pour un peu ce que le Fogefort vous permet.
Très bien. Et plus en détail, justement, quels sont les objectifs pour la personne qui souhaiterait suivre cette formation ? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir y retrouver ?
Elle va pouvoir y retrouver... Donc vraiment la base des connaissances forestières, donc à savoir la gestion forestière, donc à savoir la connaissance des arbres, des essences forestières, comment ils poussent, quelles stations forestières, donc climat plus sol, ils ont besoin pour pousser de manière optimale. Vous allez aussi avoir tout ce qui est des informations sur la fiscalité forestière, quels sont les avantages fiscaux, quelle est l'imposition en forêt, tout ce qui sera droit de la forêt, donc vos obligations et vos droits en termes de propriétaire forestier. Vous allez avoir des informations également sur la filière forêt en général, comment elle s'articule, comment faire un contrat de vente de forêt, de forêt ou de bois. Donc, vraiment une formation qui balaie très large tout autour de la forêt pour que vous ayez tous les outils en main pour pouvoir dialoguer avec un membre de la filière comme votre gestionnaire forestier ou tout autre membre de la filière. Vous permettre d'avoir des bases solides pour vous amener à gérer votre forêt durablement.
D'accord, donc si je comprends bien, c'est ouvert à tous les propriétaires forestiers, mais on peut très bien suivre cette formation en étant novice et en n'ayant possiblement aucune base en quelque sorte.
Voilà, tout à fait. Alors c'est ouvert à tous les propriétaires forestiers ou ayant droit, hein, donc en fonction de si vous êtes plusieurs à être propriétaire d'une forêt, vous pouvez également venir hein, seul ou avec votre famille ou collègues sur ces stages pour justement acquérir une base que vous n'avez pas forcément. Donc quel que soit le niveau que vous avez, vous pouvez venir à ces stages Faugéfort. Et on vous encourage à venir à ces stages Faugéfort pour bah, justement que vous soyez à même d'avoir une gestion durable et que ce soit plus facile pour vous de gérer votre forêt.
Très bien. Et donc on parle de formation et de stage, mais est-ce qu'il y a une épreuve finalement au final comme une épreuve de baccalauréat, par exemple?
Alors, il y a un petit questionnaire à la fin de chaque stage pour essayer de voir si les stagiaires ont bien retenu des choses quand même. Mais comme c'est sur une démarche participative, non, il n'y a pas d'évolution. C'est juste, en fait, les stages sont là pour les propriétaires. Donc, il y a des certifications de participation, mais il n'y a pas de diplôme, quoi. Il n'y a pas d'épreuve écrite à la fin. C'est vraiment sur le base de la volonté des propriétaires d'apprendre. Donc, pas de mise à l'épreuve à la fin.
D'accord. Et c'est une formation qui est relativement prisée par les forestiers?
Ben, écoutez, pour l'instant, ça fait ma collègue que je remplace depuis le mois de janvier a fait carton plein. Donc, je m'attacherai à faire aussi carton plein dans le sens où les propriétaires y trouvent une formation vraiment complète et riche et rencontrent des exploitants, rencontrent différents membres de la filière. Donc, ça leur donne vraiment une grande vision de la filière. Donc, c'est assez prisé, oui. Sachant qu'on peut accueillir qu'un maximum de 25 personnes par formation, autrement on n'est plus à même d'apporter une qualité de l'information. Souvent, ces formations sont pleines. Voilà, elles sont assez prisées par les propriétaires.
Très bien. Et ça vous semble important pour vous que les forestiers s'investissent par de telles actions et dans de tels stages?
Alors c'est très important parce que pour être à même de gérer une forêt de façon propice, il faut avoir des connaissances de base et qu'on n'a pas forcément si on n'est pas du métier. Donc ce sont vraiment des formations qui permettent aux propriétaires d'avoir toutes les clés en main pour gérer leur forêt et justement amener le propriétaire à gérer une forêt. Que ce soit du point de vue économique, environnemental ou sociétal, il faut avoir ces bases-là pour pouvoir vraiment être quelque part, je dirais, un bon propriétaire forestier qui s'occupe de sa forêt.
Et la formation, justement, elle a un coût pour la personne qui souhaiterait, en tout cas pour le propriétaire forestier, qui souhaiterait la suivre?
Alors oui, tout à fait. Alors c'est, on appelle ça une adhésion. Donc les membres, enfin les participants à ces formations adhèrent à l'association Faugéfort. Donc là, cette année, elle s'élève à 58 euros pour les 4 jours, qui a un coût relativement faible par rapport à toutes les journées de formation, les informations qui sont distribuées, le nombre d'intervenants qui participent. Savoir que, par exemple, chaque jour, sur les 4 jours de cette année, il y aura au moins un ou deux intervenants pendant les stages de formation, donc c'est pas tout le temps la même personne qui parle, et voilà, ça permet d'apporter différentes visions et différents regards sur la forêt aussi.
Et donc là, on va vraiment revenir sur le stage Faugéfort du mois d'août prochain.
Oui.
Donc c'est 4 jours, est-ce que vous pouvez revenir en détail sur les temps forts de ces 4 jours, justement?
Alors oui, effectivement, ces stages ont lieu donc du 28 au 31 août. Chaque journée a un thème plus ou moins spécifique, ou au moins une matinée et une après-midi. Donc par exemple, le lundi, on aura une connaissance globale, enfin une mise en bouche en fait, sur les forêts bourguignonnes et françaises. Et ensuite, on parlera sur l'après-midi, on sera plus sur le terrain, et là on parlera de bah, justement de la forêt sur le terrain, que ce soit feuillu ou résineux. Le deuxième jour, on aura plus un point là sur la sylviculture, vraiment, ça veut dire technique forestière, hein, donc reconnaître un arbre, savoir s'il faut faire des éclaircies, pas des éclaircies, des dépressages, enfin tout ce qui sera technique de gestion forestière, et aussi de cubage. Donc le cubage, c'est déterminer quel volume représentent vos arbres pour pouvoir les vendre. Le troisième jour, on aura un point sur la biodiversité en forêt, donc avec les indices théoriques en salle le matin et une pratique sur le terrain l'après-midi, avec un intervenant notamment sur la certification forestière PEFC. Et le dernier jour, on aura vraiment un focus cette fois-ci sur le matin sur la réglementation du travail en forêt et sur la fiscalité forestière. Et on aura également une visite de scierie locale. Donc le stage se passe dans le Morvan, ça se situe au centre de la région Bourgogne. Hein. Voilà un peu pour vous donner quelques illustrations de ce qu'on fera pendant ce stage du mois d'août.
Très bien. Est-ce qu'on pourrait rappeler peut-être les dates pour les auditeurs qui souhaiteraient suivre la formation?
Oui, alors ça aura lieu du 28 août au 31 août 2018.
Très bien. Donc en Côte d'Or, à Saulieu, si je dis pas de bêtises.
Alors la salle précise, enfin la ville précise, ce sera Molfay. M-O-L-P-H-E-Y. Toujours en Côte d'Or.
Très bien. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie de cet entretien. On va revenir un peu plus en détail, donc si vous le voulez bien, sur l'établissement qui anime la formation, donc c'est le CRPF, le Centre Régional de la Propriété Forestière. En quoi elle consiste l'association ?
Alors le CRPF c'est un établissement public, hein, à caractère administratif. Donc il a été créé en 1963 en même temps que l'ONF, que beaucoup de gens connaissent. Et en fait le CRPF a pour mission d'accompagner le propriétaire forestier au niveau de conseil en gestion, de vulgarisation au niveau de technique sylvicole, et surtout d'agréer les documents de gestion durable qui sont, je le rappelle, obligatoires pour les propriétaires qui ont plus de 25 hectares, notamment le plan simple de gestion. Et donc notre rôle c'est d'instruire les documents de gestion et ensuite ils sont agréés par un comité régional qui est présidé par des propriétaires forestiers. Dans ce cadre-là, dans une mission de vulgarisation de techniques sylvicoles, le CRPF a une convention avec le FOGEFOR pour réaliser l'animation de ces formations FOGEFOR. Donc ça fait depuis maintenant près de 30 ans que le CRPF travaille aux côtés du FOGEFOR. Depuis 2010, le CRPF est devenu CRPF Bourgogne-Franche-Comté, enfin CNPF, et depuis 2017, il est devenu Bourgogne-Franche-Comté.
Donc le CRPF, oui, anime les formations donc du FOGEFOR. Et qui sont justement les animateurs ? C'est des professionnels ?
Alors les animateurs, bah, c'est moi-même au niveau Bourgogne. Au niveau Franche-Comté, c'est mon collègue Patrick Léchine. Et en fait, les intervenants sont soit des autres employés du CRPF, soit des intervenants extérieurs, c'est-à-dire par exemple un scieur qui lui... est un professionnel de la filière ou un expert forestier qui sera également un professionnel de la filière mais lui plus en amont que le scieur. On aura des certificateurs. À chaque fois, ce sont des professionnels de la forêt qui viennent parler aux propriétaires qui suivent la formation.
D'accord, oui, en quelque sorte, c'est un partage d'expérience avec les nouveaux venus en quelque sorte au sein de la formation.
C'est ça, tout à fait. C'est pour leur permettre d'avoir vraiment une vision globale de la forêt et pas seulement celle du propriétaire forestier, pour qu'ils prennent en compte dans leur gestion forestière les attentes amont et aval de la filière.
Très bien. Et avant de refermer donc cette interview, on va parler plus de vous dès à présent. Vous êtes donc ingénieur. En quoi il consiste votre métier justement ?
Alors mon métier, moi je suis responsable de l'antenne de Lyon. Donc en fait je pilote les équipes départementales, donc constituées de 3 techniciennes ici dans Lyon. J'assure la mise en place de la politique régionale au niveau départemental, politique forestière, hein, et donc j'ai des missions de représentation au niveau des instances publiques pour tout ce qui est des commissions d'urbanisme, de l'environnement, de la chasse. Donc on a un rôle de représentation de la filière, un rôle d'expertise technique aussi auprès des élus quand ils en font la demande, et on veille à ce que nos objectifs en termes de l'ensemble de gestion soient bien réalisés. Donc on vient en aide, on appuie les techniciennes quand elles ont besoin de nous. Et sinon, j'ai également une mission du coup d'animation au niveau du FOGEFOR pour l'ensemble des 4 départements de l'ancienne région Bourgogne. Donc c'est moi qui coordonne tous les événements qui a lieu pour le FOGEFOR et également pour une autre association qui est le CETEF, qui est une association qui vise à échanger sur les techniques sylvicoles entre propriétaires. Donc c'est une association, encore une fois, de propriétaires forestiers qui, là, eux, souhaitent échanger à propos de thèmes sylvicoles. Il y a également plusieurs réunions dans l'année, mais ça, on en parle également pendant les réunions FOGEFOR.
Très bien. Et justement, pourquoi ce métier d'ingénieur ? Est-ce que ça vous a toujours semblé être une évidence pour vous ? De travailler justement au contact de la nature ?
Alors oui, au contact de la nature. En fait, moi, je suis parti, j'ai un parcours un peu spécial, je dirais, au sein des forestiers. C'est-à-dire que je suis rentré après le bac, je savais que je voulais travailler dans l'environnement. Je savais que je voulais travailler avec le milieu naturel, mais je savais pas spécifiquement où. Donc je suis rentré dans une école d'ingénieurs généralistes en agriculture. Donc je suis à la base ingénieur agronome et dans les dernières années j'ai pu m'orienter vers la forêt, se faire connaissance avec la forêt au cours d'une semaine de formation. Et ça m'a bien plu, donc je me suis réorienté par la suite vers la forêt. Donc je suis diplômé agronome avec une spécialité forestière. Mais je suis tombé sur la forêt quelque part par hasard et ça a été un déclic. Et j'ai voulu poursuivre dans ce milieu-là qui est un milieu très riche et très intéressant, qui apporte une grande variabilité de tâches à réaliser au quotidien.
Très bien, justement, qu'est-ce qui vous plaît plus concrètement dans le milieu forestier, plus concrètement ?
Le plus concrètement, c'est l'échange avec les propriétaires forestiers qui sont souvent très riches d'informations et puis de réflexions. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Et puis le contact avec la nature et surtout la forêt, quoi. Travailler avec dans le milieu forestier, c'est très intéressant parce que c'est une dynamique qui n'est pas la même que le milieu agricole, qui est plus lente, mais qui est à la fois lente et très rapide. C'est-à-dire que si vous n'intervenez pas assez rapidement, il est trop tard, et si vous intervenez trop tôt, c'est dommage. Voilà, il y a un juste temps à trouver, et c'est ça qui est très intéressant.
Et en deux mots, justement, est-ce que c'est un métier qui est difficile, et quelles sont en quelque sorte les compétences qu'on doit avoir pour réaliser une telle fonction ?
Enfin, je ne peux pas vous dire que c'est un métier facile, enfin, c'est un métier comme chaque métier a ses spécialités et ses compétences. Pour exercer ce métier, je pense qu'il faut avoir une communication facile avec les propriétaires, et il faut avoir des compétences techniques, des connaissances techniques sur la forêt et sa gestion, qui s'acquiert après les études. Donc que vous passiez par un BTS forestier pour voir continuer plus tard par le diplôme d'ingénieur, ça s'apprend, hein, mais voilà, il faut quand même avoir un minimum de compétences pour pouvoir le réaliser.
Écoutez, merci à vous. Voilà, on arrive donc au terme de cet entretien. Pour rappel, la formation Fogefor se déroulera du mardi 28 août prochain jusqu'au vendredi 31 août. 4 grandes journées pour apprendre à gérer son domaine forestier qui se dérouleront dans le secteur de Saulieu, donc en Côte d'Or à 2 pas de la Saône-et-Loire. Peut-être, monsieur Delberg, il y a un contact pour plus de renseignements et pour éventuellement s'inscrire ?
Oui, les propriétaires peuvent me contacter au 03 86 94 90 21 ou alors antoine.delberg@crpf.fr. Sinon, ils peuvent se référer également au site internet du CRPF. Nous trouverons toutes les informations sur ce site.
Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Le Saviez-vous sur Radio Prévert 105.9.
Cette matinale est donc terminée. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Stéphane.
Merci, Manon.
Nous vous souhaitons bon appétit. Enfin, c'est dans une heure quand même, on a eu le temps encore.
Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une toute nouvelle matinale en direct sur le 105.9.
Et donc, à bientôt sur Radio Prévert 105.9.
Good morning, Radio Prévert. Good morning.
Good morning.
Good morning.
Good morning.
Whoa, good morning. And
good morning, Radio Prévert.